Radio Stable.
Morning Edition from NPR
News.
Radio Rosana Piperino.
Que se reproduce bien en la radio.
France Inter, le 18-20.
C'est un lieu à oublier, ou bien à ouvrir pour devenir un lieu de mémoire.
Oublier ou ouvrir les lieux de mémoire des années de plomb au Maroc. C'est à Casa que je vous emmène ce soir dans le quartier Aïn Mohammedi qui a été le théâtre tragique de ces années-là. Mais comment s'en souvenir dans le Maroc d'aujourd'hui? Ce sera l'escale reportage dans un instant. Sous les radars et Amélie Perrier avec une façon de vendre de la bière bien particulière en Afrique avec un breakfast in Arabie Saoudite qui finit plutôt très mal. Et les Chinois et leur deuxième enfant. Julia Foyce viendra nous rappeler à 18h50 qu'un homme sur deux est une femme. Et nous irons en Angleterre, à la BBC, en Inde et en Suisse, où l'on parle d'éducation sexuelle. 18h55, Le Monde à l'envers, de Jean-Marc Four, la charge des États-Unis contre la Cour pénale internationale. Mais si Bolton avait raison, c'est le contre-pied du jour. Avant cela, nous allons au Brésil avec un candidat qui va renoncer, là, dans les heures qui viennent depuis sa prison. Un autre à l'hôpital. Quel chaos, quand même, un mois après les présidentielles. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Ça devrait se faire donc dans les heures qui viennent maintenant, autour de 20h, heure de chez nous. Si je ne me trompe pas, Lula qui renonce à la présidentielle du fond de sa prison et qui passe le relais à son colistier qui s'appelle Fernando Haddad. C'est un nom que même les Brésiliens vont devoir apprendre à connaître, c'est dire où on en est. Une décision finalement logique, mais Lula était en tête des sondages. Son colistier ne l'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour ajouter à la confusion, Bolsonaro qui est toujours à l'hôpital, l'ultra-droite avec un coup de couteau et qui du coup lui passe en tête des intentions de vote. Bonsoir. Caspar Estrada.
Bonsoir.
Vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. L'élection présidentielle, c'est le 7 octobre, honnêtement, donc un mois. Hein. Est-ce qu'on a déjà vu un chaos pareil dans ce pays-là, et même en Amérique latine d'ailleurs, avant une élection de ce genre-là?
Alors, très clairement, au Brésil, non. En Amérique latine, tout est possible, ouais. Y compris des élections sans opposition. C'est ce qu'on a vu au Venezuela l'année dernière, non, pas au début de cette année. Concrètement, au Brésil, en effet, nous sommes dans un scénario inédit où, vous l'avez remarqué, le candidat qui est jusqu'à présent, qui était en tête dans les sondages, est en prison, l'autre est à l'hôpital, et surtout avec une très forte polarisation politique, une crispation sociale, une crise économique, et donc un très grand rejet des électeurs vis-à-vis de leurs élites politiques et économiques.
Alors, on va y venir parce que c'est aussi ce qui dit le score de Jair Bolsonaro. Sur Lula et son renoncement, est-ce qu'il n'est pas tardif, ce renoncement? Parce qu'en fond, qui pouvait imaginer que le tribunal allait le laisser être candidat, Lula? Est-ce qu'il reste 4 semaines pour Haddad se faire connaître? C'est extrêmement peu, 4 semaines, finalement.
Alors, c'est extrêmement peu, mais ça fait partie de la stratégie qui a été risquée depuis le début de l'ancien président Lula. Il ne faut pas oublier que Lula a été emprisonné au début du mois d'avril. Et à l'époque, on disait déjà que le PT, le Parti des Travailleurs, doit changer de candidat. Le fait est qu'aujourd'hui, Lula a vu ses intentions de vote augmenter et donc le potentiel de transfert de voix vers son dauphin, Haddad, augmenter de ce fait. Et on l'a vu, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le candidat qui a la plus forte croissance dans les études d'opinion, c'est le candidat du Parti des Travailleurs.
Ça veut dire que le transfert, il va se faire de voix à voix. Parce qu'on a même l'impression que les gens ne connaissent pas son nom. Il est inscrit sur les bulletins que c'est le colistier de Lula pour être absolument sûr que les gens sachent de quoi il parle quand même.
Exactement. Je suis convaincu que l'ensemble des électeurs de Lula ne votera pas pour Haddad, mais si il obtient la moitié de ces électeurs-là, il aura de bonnes chances d'arriver au deuxième tour, parce qu'il ne faut pas oublier que cette élection a lieu dans un cadre extrêmement fragmenté. Bolsonaro, celui qui aujourd'hui est en tête des études d'opinion, a un peu plus de 20% d'intention de vote, mais si Fernando Haddad obtient entre 15 et 20%, son passage au deuxième tour est une possibilité.
Est-ce qu'il y a une alternative de toute façon pour les électeurs de Lula s'ils ne choisissent pas Haddad? Qu'est-ce qui leur reste finalement? Qu'est-ce qui se passe avec Ciro Gomes qui est toujours là? Qu'est-ce qui se passe avec Marina Silva, la verte, qui a autrefois été l'une des proches d'ailleurs à la fois de Dilma Rousseff et de Lula et qui aujourd'hui est encore là? Est-ce qu'on peut se reporter sur eux aussi? Est-ce qu'ils en bénéficieront de l'effet Lula ou pas?
Vous avez posé la bonne question à mon sens, c'est-à-dire quel sera le report de voix de ces électeurs loulistes qui aujourd'hui n'ont plus de candidat. Et vous avez justement mentionné Ciro Gomes, Marina Silva et Fernando Haddad sont 3 anciens ministres de Lula, et donc ils vont réclamer cet héritage de Lula. La question est de savoir qui sera en mesure de communiquer justement ce message auprès des électeurs. Et aujourd'hui, c'est le candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad, qui dispose du plus grand temps de télévision.
Parce qu'il n'y en a pas eu avant.
La campagne officielle n'avait pas commencé. Elle a commencé le 31 août. Et aujourd'hui, c'est Fernando Haddad qui dispose de ce temps d'antenne et qui aussi dispose du réseau d'élus le plus vaste dans le pays. 9 gouverneurs dans le nord-est du pays, là où se situent la plupart des électeurs de Lula, souhaitent la victoire de Fernando Haddad, soutiennent sa candidature. Et donc, de ce point de vue-là, il y a, je pense, des conditions pour que Haddad obtienne la plupart de ses voix.
Alors, en face à droite, en tout cas, Bolsonaro, qui est donc désormais en tête des sondages depuis le coup de couteau, en gros, est-ce que c'est un effet coup de couteau, on va le dire comme ça, ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose du côté de l'ultra-droite en ce moment au Brésil?
Je pense qu'il y a surtout un rejet vis-à-vis de la classe politique et le discours de Jair Bolsonaro, qui est très dur, qui est aussi, il faut le dire, homophobe, raciste, et ça, je pense qu'il faut insister
pour
là-dessus.
Pour le port d'armes, contre l'avortement, les phrases ont été absolument épouvantables par ailleurs. Oui, chez nous, il serait condamné.
Totalement. Ouais. D'ailleurs, il y a aujourd'hui une procédure qui d'ailleurs devait être votée aujourd'hui au sein de la Cour suprême brésilienne pour savoir si M. Bolsonaro pourrait être condamné pour racisme.
Mais du coup, Gaspard Estrada, est-ce que le dégagisme, on va appeler ça comme ça pour utiliser un terme qu'on connaît nous ici, est-ce que ça suffit à expliquer cette montée de l'extrême droite, l'envie de dégagisme, la fin de la corruption? Ça suffit, l'explication est là.
Et la violence aussi. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il y a 63 000 personnes qui ont été assassinées au Brésil. Mmh. C'est un chiffre astronomique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un ras-le-bol, non seulement pour les questions politiques, les questions économiques, ces crispations sociales, cette question de la violence. Et donc, Bolsonaro réussit justement à intégrer et à s'exprimer vis-à-vis de ces personnes qui, aujourd'hui, n'en peuvent plus de ces partis politiques qui sont en place. Je pense néanmoins que M. Bolsonaro aura du mal, in fine, à être élu, puisqu'il dispose aussi d'un taux de rejet extrêmement élevé, un taux de rejet qui continue d'augmenter malgré cette tentative d'assassinat de jeudi dernier. Et donc je pense que s'il y a un deuxième tour qui opposerait M. Bolsonaro à un autre candidat, soit-il M. Haddad, Ciro Gomes ou Fernando Alckmin, il pourrait y avoir un phénomène de vote utile comme il y a eu en France dans d'autres élections.
Bolsonaro, on le compare beaucoup à Trump, on a beaucoup dit que c'était le Trump local, mais il y a quelque chose d'anti-système chez Trump. Moi j'ai le sentiment, mais vous allez me dire si je me trompe, qu'au contraire, Bolsonaro, il est très système justement, puisque c'est l'armée qui est derrière lui, puisque c'est l'Église qui sont des piliers de ce pays, l'agriculture aussi. Finalement, c'est un vrai gars du sérail, en fait, Bolsonaro, finalement.
Ah, tout à fait, tout à fait. Ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que le discours de M. Bolsonaro est axé fondamentalement sur la question du rejet de la politique. Or, lui-même est un homme politique du sérail.
C'est un grand classique, par ailleurs.
Absolument. Oui. Il a été réélu député à 6 reprises. Ses enfants ont été conseillers municipaux, ont été députés étatiques, sont aujourd'hui candidats à poste de sénateur, de député fédéral. Donc c'est véritablement une PME familiale, la famille Bolsonaro.
Mais est-ce que ça veut dire aussi est-ce qu'on peut dire qu'il existe au Brésil une sorte de tentation autoritaire aujourd'hui, de la part d'un certain nombre d'électeurs, pour sortir du marasme et de la corruption aussi? Revenons aussi à ce qu'on connaît, qui est finalement pas si vieux, quelque chose de très autoritaire. Alors on n'est pas forcément avec les militaires, mais enfin on n'est pas loin finalement, non?
Je partage ce point de vue, d'autant plus qu'il est intéressant de souligner la composition de l'électorat de M. Bolsonaro. Mmh. L'électeur type de Bolsonaro, c'est un jeune, donc qui n'a pas connu la dictature militaire, ouais, qui essentiellement vient des classes moyennes, des zones urbaines. Et donc, de ce point de vue-là, cet électorat-là n'a pas connu la dictature militaire. Donc, il pense que cette époque très sombre du Brésil...
Donc, ce n'est pas une nostalgie de la période dictatoriale du Brésil, c'est
non,
pas ça, en
c'est
fait.
C'est plutôt une méconnaissance de cette époque dictatoriale. Et je pense que c'est aussi une limite à l'avenir pour M. Bolsonaro, puisque c'est notamment chez les femmes où cette candidature va mal. Et donc, il aura beaucoup de difficultés, justement, à s'exprimer et à obtenir l'adhésion auprès de l'électorat féminin.
Mais quand il dit qu'il s'appuie, ou quand on dit qu'il s'appuie sur les militaires, est-ce qu'il y a vraiment une aide militaire? Il a même dit à un moment qu'il y aurait d'ailleurs des militaires dans le gouvernement. Est-ce que ça, c'est envisageable au Brésil d'aujourd'hui ou pas?
Très concrètement, son candidat à la vice-présidence est un général, alors à la retraite, le général Mouraon, mais il y a eu plusieurs déclarations de militaires. Il y a d'ailleurs plus d'une centaine de candidats, soit-ils en activité ou à la retraite, qui sont candidats dans plusieurs partis, dont le parti de M. Bolsonaro, le PSL. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un réinvestissement de l'armée dans le débat politique, ce qui, à mon sens, et de manière plus personnelle, est un élément inquiétant.
Alors, c'est vrai que, mais vous nous l'avez expliqué, hein, il y a beaucoup de jeunes qui votent pour le Bolsonaro. Il faut rappeler quand même que la fin de la dictature au Brésil, c'est 1985. Donc, c'est hier. En fait, c'est extrêmement récent. Ça paraît assez fou de se dire que les militaires peuvent revenir aujourd'hui. On a un peu le sentiment d'une démocratie qui réclamerait une tutelle, en fait, en quelque sorte, de la part, en tout cas, de ces électeurs-là.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour cela que, aujourd'hui, il y a un vrai débat par rapport justement à cette expression de plus en plus libérée des militaires qui n'hésitent pas à critiquer des candidats en disant que une candidature de Lula pourrait provoquer une intervention militaire, ce qui est quand même extrêmement grave dans une démocratie. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a justement cette polarisation politique qui est de plus en plus importante. Et pour moi, c'est très grave, puisque la base d'une élection, c'est justement recréer un pacte politique, un pacte social via le vote. Et aujourd'hui, on assiste plutôt au phénomène inverse.
Est-ce qu'il faut lire des similitudes? On parlait de Trump tout à l'heure, mais est-ce qu'il faut lire des similitudes dans cette tentation Bolsonaro au Brésil, avec ce qui peut se passer avec nos populismes à nous en Europe, avec une attitude à la Orban? Est-ce qu'on peut lire des similitudes en se disant que finalement cette vague-là ne traverse pas seulement l'Europe, les États-Unis, mais le monde entier? Ou est-ce qu'on se trompe complètement de lecture?
Non,
je pense notamment au Venezuela qui traverse la frontière. Il y a aussi une histoire de migration qui arrive jusqu'au Brésil. Donc est-ce qu'on lit des similitudes ou pas?
Alors, on peut trouver des similitudes. Je pense que les circonstances politiques historiques du Brésil et de l'Europe sont assez différentes. Néanmoins, ce que je peux constater, c'est qu'il existe une véritable filiation assumée de la part du candidat Bolsonaro de ce genre de populisme, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Il y a même des membres, d'anciens membres de l'équipe de campagne de M. Trump, je pense notamment à Steve Bannon,
bien sûr,
qui a déclaré souhaiter la victoire de M. Bolsonaro et qui était prêt à aller au Brésil pour soutenir sa candidature. Donc je pense qu'il y a sur le plan politique une véritable filiation, même si les caractéristiques politiques et historiques sont différentes.
Intéressant, puisque Bannon est en Europe aussi pour dire à peu près la même chose, d'ailleurs, aux Polonais, aux Hongrois, etc. Est-ce qu'il y a on a longtemps eu cette lecture-là, et peut-être à tort aussi, sur l'idée d'une Amérique latine, d'une Amérique du Sud, de toute façon, qui, après sa grande période de gauche, est aussi en train, collectivement, finalement, alors c'est pas vrai partout, mais de virer vers quelque chose de plus à droite. Est-ce que ça, c'est une lecture aussi à avoir ou pas?
Je pense que ce qu'il y a surtout, c'est un phénomène d'alternance. Il se trouve que la plupart des gouvernements étaient à gauche, donc il y a eu des alternances à droite récemment, mais cela ne veut pas dire pour autant que le phénomène inverse se produise. Je pense qu'il y a aujourd'hui, surtout en Amérique latine, un vrai ras-le-bol avec la chute de la croissance économique, avec la montée de la crispation sociale liée à la multiplication des scandales de corruption dans la région, une véritable volonté d'alternance. Et ce qui explique pourquoi, dans certains pays tels que le Mexique, par exemple, qui est l'autre grand pays de la région, pour la première fois depuis que les Mexicains votent, il y a une alternance à gauche.
Une dernière question, Gaspard Estrada. Quel que soit le résultat, finalement, qu'il soit gauche ou droite, ça ne sort pas le Brésil de la situation dans laquelle il est aujourd'hui, cette polarisation de la population. Est-ce que l'un de ces deux candidats est capable, de toute façon, de la résorber ou pas?
Eh bien, je le souhaite. Le véritable problème que je constate au Brésil, c'est qu'il n'y a pas eu de réforme politique, il n'y a pas eu de réforme du financement de la vie politique qui est au cœur de ces scandales de corruption qui empoisonnent la vie du Brésil depuis déjà de nombreuses années, qui est à l'origine aussi de ces crises économiques. Il faut que le prochain président du Brésil, ou la prochaine présidente du Brésil, réussissent à constituer une majorité parlementaire. Or, dans le contexte politique actuel, la constitution de majorité serait quelque chose d'extrêmement compliqué, a fortiori si on est dans ce contexte de polarisation. Donc, il me semble que ce deuxième tour sera vraiment très important pour déterminer l'avenir du Brésil.
Mais est-ce qu'on risque de trouver aussi dans leur placard des histoires de corruption, de pots de vin, etc., dans le placard d'Haddad, dans celui de Bolsonaro aussi d'ailleurs, et d'autres ou pas, potentiellement?
Potentiellement, oui. Après, je ne peux pas m'exprimer par avance. Mais je pense que la question centrale, c'est qu'il faut que le prochain gouvernement du Brésil mette en place une réforme politique pour mettre fin à cette extrême fragmentation partisane et à réformer le mode de financement des partis politiques pour retrouver des bases saines, pour retrouver la croissance politique et sociale.
L'annonce de Lula, ce sera ce soir donc au Brésil, et puis les élections donc le 7 octobre qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt dans Un jour dans le monde. Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Merci mille fois.
France Inter. Fabienne Synthèse, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde au Maroc, dans un quartier de Casa principalement, qui a été le théâtre des tortures et exactions des années de plomb, dans un quartier qui oscille entre l'oubli et la mémoire. On verra ça dans un instant reportage. Sous les radars et Amélie Perrier avec la bière en Afrique, avec un breakfast in Arabie Saoudite, avec des méthodes brutales des Chinois dans leur politique du deuxième enfant. 18h50, Julia Foy, c'est là pour nous rappeler qu'un homme sur deux est une femme. Bonsoir Julia.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
Et par exemple, donc...
On va se glisser sous la couette des jeunes helvètes, on va voir comment ça bouge ou si ça bouge de ce côté-là. Enfin, je veux dire, si les choses changent,
c'est
évidemment.
Ça, rattrapez-vous comme vous pouvez. Allez, à tout à l'heure. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Les États-Unis, leur charge incroyablement violente contre la CPI, et s'ils avaient raison, c'est
contre
ça que
la justice internationale, oui, ça tire à boulet rouge, alors soyons politiquement incorrects, et si cette attaque était en partie justifiée.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète continue et passe par le Royaume-Uni avec l'immortel David Bowie. Rebel, rebel. Rebelle, mais nous manque terriblement David Bowie sur France Inter. Amélie Perrier passe sous les radars, c'est tout de suite.
France Inter.
Good evening and welcome.
Irasmatio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Et Amélie, on commence avec une première gorgée de bière au goût plutôt amer.
Une enquête passionnante d'un journaliste néerlandais, Olivier Van Bemmen, sur Heineken en Afrique. La bière rapporte près de 50% de plus sur ce continent qu'ailleurs dans le monde, grâce au développement de la classe moyenne et au coût de production plus faible. Mais le deuxième brasseur mondial en veut encore davantage, apparemment. Parmi ses pratiques les plus choquantes peut-être, l'embauche de vendeuses par Heineken, des vendeuses abusées sexuellement.
Mostly
Alors certaines témoignent ici au Kenya, la plupart, dit celle-ci, ils vous touchent vos parties intimes, vos fesses, vos seins. Une autre dit, on n'est pas ici pour vendre une marque, on est ici pour se vendre nous-mêmes. Et encore une là, elle témoigne, la plupart de ces filles doivent coucher avec les managers ou les clients pour garder leur emploi. Et enfin une dernière, interrogée là par la télé néerlandaise, elle explique, ils pensent que nous sommes des prostituées à cause des robes qu'on nous fait porter parce qu'elles sont vraiment très courtes, effectivement des mini-robes très moulantes aux couleurs d'Heineken. Et le journaliste Olivier Van Bemmen, qui vient de signer le livre enquête Heineken en Afrique, une multinationale décomplexée, raconte qu'un directeur général de la filiale Heineken au Nigeria, dans les années 2000, a réussi à booster les ventes de la marque Legend en mettant en place des formations pour les prostituées. Elle devait expliquer aux clients qu'ils seraient sexuellement plus performants en buvant de la Legend plutôt que de la Guinness, la principale concurrente. Heineken en a formé, selon Olivier Van Bemmen, près de 2500 prostituées. Son enquête a quand même déjà eu des conséquences, raconte le reporter. Le partenariat entre le brasseur et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été suspendu. Mais pour l'instant, aucune enquête judiciaire ouverte à ce jour. À lire donc Heineken en Afrique, une multinationale décomplexée. C'est aux éditions Rue de l'Échiquier.
Allez, là, c'est un petit déjeuner, tout ce qu'il y a de plus chaste et anodin, mais qui a beaucoup déplu aux autorités en Arabie Saoudite.
Oui, un Égyptien travaillant dans un hôtel saoudien a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. On le voit en train de partager son petit déjeuner au travail avec, semble-t-il, une collègue, une femme portant un niqab. Alors ils s'amusent, ils rient ensemble, mais rien de plus. Sauf qu'en Arabie Saoudite, il est interdit à une femme de passer du temps avec un homme qui n'est pas son mari ou un parent. Les deux ont été arrêtés pour comportement provoquant. Ils risquent plusieurs années de prison.
La Chine, elle, pas plus reluisant, voudrait davantage encourager les siens à se reproduire, mais parfois la pilule a du mal à passer.
Mais ça fait 5 ans que l'Empire du Milieu avance vers une politique plus nataliste et la fin de l'interdiction d'avoir plus d'un enfant au départ passait comme un progrès.
La fin de cette politique de limitation des naissances, c'est une amélioration pour les droits de l'homme. Je pense que c'est à chaque citoyen de décider combien de bébés il voudrait avoir.
Sauf que la Chine emploie aujourd'hui des méthodes brutales pour convaincre ses citoyens de faire des bébés. La Commission nationale de la santé vient de supprimer 3 bureaux du planning familial. Elle les remplace par un office de suivi de la population et du développement de la famille. Autre signe de ce virage des autorités. Les timbres postaux, oui, imprimés par le gouvernement pour l'année du cochon. On y voit une famille avec les parents cochons et 3 petits porcelets.
Super.
3.
Car le message soit bien clair.
Voilà. Car au final, peu de Chinois ont profité en fait de l'autorisation de faire un second enfant. Ces dernières années, trop cher d'agrandir la famille entre les frais d'éducation et le logement. Alors pas sûr que la politique pro-nataliste porte ses fruits sur la courbe démographique, surtout si elle s'avère aussi agressive que la précédente politique de l'enfant unique, comme le dénonce un certain nombre d'observateurs. J'en profite pour terminer, Fabienne, pour souligner ce fact-checking fait par Libération. C'est justement à propos de l'histoire d'un couple chinois qui serait allé consulter un médecin dans la province de Guizhou, car il n'arrivait pas à avoir un enfant. Le médecin, après avoir examiné la femme, aurait découvert qu'elle était toujours vierge. Le couple n'avait que des rapports anaux. Grâce aux praticiens et à ses conseils, le couple aurait finalement réussi à concevoir le bébé. En fait, beaucoup de médias français et étrangers ont relayé l'histoire pour illustrer les défaillances de l'éducation sexuelle en Chine. Check News l'a vérifié. L'article source se lui reprit dans le monde entier. Il n'a jamais existé. Il est issu d'un portail d'agrégation de contenu. Le journal chinois cité par tous a démenti avoir publié un tel papier. Et Libé de noter que l'anecdote se ressemble furieusement à une scène tirée en fait d'un roman Catch-22 de Joseph. Et alors voilà la vérité. En partie
voilà, faut pas les prendre pour des imbéciles non plus. Merci beaucoup, Amélie Perrier. On se retrouve bien sûr demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Maroc que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, au Maroc notamment dans le quartier Aïm Mohammedi de Casablanca qui a été l'un des cadres tragiques des années de plomb à l'époque d'Hassan II. Comment faire face à cette mémoire douloureuse? Est-ce qu'on oublie? Est-ce qu'on ouvre les lieux de mémoire? Vous l'entendrez d'ailleurs cette phrase dans le reportage. Bonsoir Stéphanie Wenger.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Stéphanie, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Maroc a mis des choses en place depuis les années 90, notamment l'instance équité et réconciliation avec des auditions de victimes. Là, ici, dans ce quartier d'Aïm Mohammedi, grâce à plusieurs associations, des plaques ont été mises en place en 2016 seulement pour retracer l'histoire du quartier. Et c'est là qu'on vous suit, Stéphanie.
Au nord de Gaza, Hey Mohammedi est un quartier qui est un peu un condensé de l'histoire du Maroc au XXe siècle. L'industrialisation, l'exode rural, la lutte pour l'indépendance et les années de plomb. Fatna El Bouy, militante, arrêtée et détenue à cette époque, a été chargée des années plus tard de superviser le programme Traces d'espace. Elle explique l'idée forte derrière cette démarche de commémoration.
De réhabiliter le quartier par la réhabilitation des moments historiques et des lieux historiques. Et donc ce sont des lieux où il s'est passé quelque chose. Hey Mohammedi est un quartier qui a profité de ce programme parce qu'il a subi des violations. Sa population a subi des violations. D'abord, il a abrité le grand centre de disparition, le fameux centre d'Erbil el-Sharif.
Fatna El Bouy a été détenue à Erbil el-Sharif. Elle le raconte dans son livre « Une femme nommée Rachid ». Rachid, c'est un prénom d'homme. Rachid, c'est comme ça que ses geôliers l'appelaient. Une façon supplémentaire d'effacer son identité. Aujourd'hui, on dirait un immeuble comme un autre, sauf que l'entrée principale et le rez-de-chaussée sont condamnés par une grille, mais des familles de policiers vivent encore à l'étage. Sur la plaque suspendue au mur, on peut lire « Le sinistre d'Erbil el-Sharif cessa ses activités au début des années 90 ». Pour Taki Najib, historien et connaisseur du quartier, les riverains savaient à quoi s'en tenir à l'époque.
Les habitants qui sont non loin, ils savent que cet endroit n'est pas normal. C'est un lieu où on mène les opposants et on les torture, et etc., etc.
Par rapport à ce lieu, c'est quoi, selon vous, le rapport des gens du quartier ?
C'est un lieu à oublier ou bien à ouvrir parce que la société civile essaie de le faire ouvrir pour devenir un lieu de mémoire. Je pense qu'il y a une volonté de faire oublier aux gens que c'est un centre déjà joué un rôle néfaste dans les droits de l'homme au Maroc.
Juste à côté, Mourad, 15 ans, regarde ses copains jouer au foot. Son père lui a raconté les arrestations des fedaïnes par les autorités françaises pendant la lutte pour l'indépendance, mais il en sait peu sur ce lieu symbole des années de plomb.
Tu n'as pas vu ce qui est écrit là-bas ?
Non, je n'ai pas vu. Sur la plaque ?
Oui, oui.
Non, je n'ai pas lu.
Abdeljalil Bakar est une figure du quartier. À presque 50 ans, il a un profil atypique. Il a abandonné sa carrière de policier pour monter avec d'autres Initiative Urbaine, une association qui conduit de nombreux projets culturels. L'enfant de Hey Mohammedi voit beaucoup de lieux mythiques disparaître. Son association a participé à ce projet qui dessine un parcours de la mémoire du quartier. Mais selon lui, ça ne va pas assez loin.
Personnellement, c'est pas ce que j'attendais moi. C'est pas des petites pancartes, mais c'est des grands panneaux avec le nom du lieu, avec un petit synopsis. Oui, l'architecture elle est bien, l'histoire de l'architecture est bien, mais aussi la mémoire, moi comme habitant, m'intéresse beaucoup. Il faut faire parler ces lieux. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Le seul trésor qu'on a, le seul produit vendable, c'est ce patrimoine-là qu'on veut considérer comme un levier de développement du quartier.
Nous sommes devant le cinéma Saada. Il est fermé depuis longtemps. La plaque posée, il y a 2 ans, a disparu. Les visages sont peints sur le côté, moustaches et cheveux longs. Ce sont ceux du groupe Nasser Riwan. Dans les années 70, leur musique qui revisite la tradition, leurs paroles entre poésie et protest-song révolutionnent la chanson marocaine. L'historien Taki Najib.
On n'est pas habitué dans le temps à écouter des chansons politiques, surtout dans la période qu'on appelle couramment la période des années de plomb. Bien sûr, elle est très populaire parce qu'il a parlé de la corruption, il a parlé de plusieurs phénomènes sociaux, politiques de la société marocaine.
Et ils ont commencé ici ?
Oui, ils ont commencé ici, Cinéma Saada, tout à côté.
Casablanca est une mégapole en chantier permanent. Près d'une grande artère, en plein travaux, se trouve un autre lieu de mémoire, le monument d'hommage aux victimes des émeutes de 1981. Cette année-là, poussée par le FMI, le Maroc baisse les subventions sur des produits de base. La rue gronde, des émeutes éclatent, la répression fait des centaines de morts. Les noms de certains d'entre eux sont gravés sur un grand cube blanc.
Ahmed Rajdi, Abdallah Jilali, Abqad al-Bukhari... Je pense 80 ou 81. On a choisi 81
non des victimes.
Mais une grille entoure le monument. Elle est fermée. Le gardien nous informe qu'à part pour les familles, il faut une autorisation pour entrer.
Ça veut quand même dire quelque chose, non? Que le lieu ne soit pas ouvert.
Oui, bien sûr, c'est un problème. On parle de droit, donc un droit de visiter les gens qui ont été victimes des droits de l'homme.
Hey, Mohamedi est en pleine transformation. L'histoire s'y affiche de façon discrète. On peut se réjouir de la destruction des bidonvilles, mais les deux cinémas, la salle de concert, le club de foot mythique ont aussi disparu. Et avec eux, un peu de la mémoire et de la fierté de ce quartier à part.
La mémoire des années de plomb au Maroc. Stéphanie Wenger pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Et à très vite, voici Fatoumata Diawara.
Elle est terrible. Jarabi tala yoro jana ale ma son segima Nderini nderini ngabe disa ne jarabi ma peganyalo nyala Nderini nderini ngabe disa ne kanu I want to know.
Fatoumata Diawara sur France Inter, ça s'appelle Enterini. Ne cherchez pas, un homme sur deux est bien une femme dans le monde et c'est pour ça que Julia Foyce est là tous les mardis.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saintès.
You are scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Julia, toutes les semaines, une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour les femmes dans le monde, on commence par la bonne.
La moyen bonne. Ouais. C'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, verre à moitié vide. Vous me direz.
Allez-y.
Vous en pensez. Ça se passe en Grande-Bretagne. C'est une grande chaîne.
Déjà, c'est presque vide.
Rentrée. C'est une nouvelle émission politique, Politic Lives, qui se lance aux manettes. On a Jo Coburn, qui est une journaliste aguerrie. Autour d'elle, un plateau composé d'éditorialistes politiques et de représentants de partis, travaillistes comme conservateurs. Équilibré donc en termes de point de vue. Et c'est alors un déluge de commentaires offusqués. Sur la toile, une vidéo qui tourne en boucle, un public outré et un producteur sommé de s'expliquer. Rob Burley le fait au micro de nos confrères de France Info.
C'est arrivé naturellement. Cela s'est produit parce qu'on cherchait les personnes les plus pertinentes et qui étaient disponibles pour venir dans l'émission. Et on s'est rendu compte qu'on avait 5 femmes.
What? Mais 5 femmes sur un plateau plus une présentatrice, c'est pas un homme pour nous dire comment va le monde, pour nous expliquer les dessous du dehors de la politique. C'est une blague, commente Darrell sur Twitter. Pire, une blague sexiste si l'on en croit la foule d'internautes indignés dont Alex qui relève que, bien entendu, les femmes sont sous-représentées dans certaines parties des médias. Mais pourquoi les hommes et leurs idées devraient-ils être exclus de la conversation? Cher Alex, je sens dans ce commentaire comme l'appel au secours d'une virilité qu'on aurait bafouée. Je l'entends et je la comprends. Tu as raison, Alex. Oui, les femmes sont sous-représentées dans certaines parties des médias. Tu vois, par exemple, en France, toutes les chaînes de radio et de télé confondues, les femmes composent 38% du paysage médiatique et on tombe à 30% si on ne parle que d'experts ou d'invités politiques, pas de présentateurs. Donc, la situation déborde suffisamment la France pour que le CSA ait présenté à l'ONU en mars dernier un plan d'action global pour l'égalité hommes-femmes dans les médias. Alors, tu sais comment c'est, Alex, hein, les plans, les campagnes et les projets à l'ONU t'inquiètent. D'ici, est-ce que les hommes soient vraiment exclus de la conversation ? On a de la marge.
Et on embrasse Alex. Encore une bonne nouvelle, Julia, qui nous emmène là du côté de l'Inde. Enfin, presque bonne la nouvelle là encore.
Oui, c'est pareil. Hein. Vous avez certainement vu ces images de foule en liesse dans les rues de Bombay ou de Delhi. Des jeunes qui s'embrassent, se tiennent par la main, crient de bonheur ou pleurent de joie. Après des années de combat, l'homosexualité vient d'être dépénalisée en Inde. Alors évidemment, on ne peut que se réjouir hein, de ne plus voir croupir en prison à vie des hommes et des femmes coupables d'avoir fricoté, voire, oula, aimé une personne du même sexe qu'eux. Et en même temps, eh ben, c'est pas gagné déjà parce que 61 pays dans le monde continuent de réprimer sévèrement l'homosexualité et que dans 13 d'entre eux, c'est toujours la peine de mort qui prévaut. Mais surtout parce que la loi n'est jamais qu'un début. En France, par exemple, l'homosexualité n'est plus un délit depuis 1982. N'empêche que, selon le dernier rapport d'SOS Homophobie, les agressions physiques de lesbiennes, de gays, de bi et de trans ont encore augmenté de 15% l'an dernier. On en compte en moyenne une tous les trois jours. Celle-ci, par exemple, il y a à peine deux semaines, on est fin août à Paris, on s'apprête à reprendre le boulot, mais on flâne encore un petit peu dehors et on s'embrasse parce qu'il fait beau et qu'on est bien. Et ces deux jeunes femmes s'embrassent parce qu'elles sont bien et qu'il fait beau, mais lui, là, il dîne dehors avec ses enfants. Et ça, non, vraiment, il ne veut pas qu'il voit ça, les enfants, c'est dégueulasse quand même de femmes qui s'embrassent, non mais oh. Alors il leur dit de partir, sauf qu'elles se rebiffent, alors il se lève et puis il les insulte, les menace de viol, c'est ici. Et puis le bon père de famille.
C'est un bon exemple, cela dit, pour un dîner de famille.
Exactement, par coller son poing dans la figure à l'une des deux, hein, et ça, dans ses enfants. Oui, non, ça le gêne pas. Bref, on est en France, on est en 2018, et être lesbienne en 2018, en France, en Inde ou partout dans le monde, eh ben c'est ça aussi.
Alors, est-ce que je peux avoir une vraie bonne nouvelle cette fois, s'il
oui,
vous plaît, Julia ?
Oui, je vous promets.
Allons la chercher chez les Helvètes.
Évidemment, c'est une vaste étude menée par le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, la première de cette ampleur depuis 20 ans. Rassurez-vous, Fabienne, rien ne change. Non, les réseaux sociaux n'ont pas tué les relations amoureuses, puisque 3 jeunes sur 4 vivaient en couple au moment de l'enquête. Non, le porno en libre accès ne les a pas totalement dévoyés. Et l'âge du premier rapport reste stable à 17 ans, comme un peu partout en Europe. Par ailleurs, 53% des jeunes femmes ont déjà couché avec un partenaire alors qu'elle n'en avait pas forcément envie, juste pour lui faire plaisir ou par crainte de lui déplaire, contre 23% pour les hommes. Voyez Fabienne, rien ne bouge, tout va bien.
Voilà, chez les Helvètes, rien ne bouge, ils seront bien contents de le savoir. Tiens, merci beaucoup Julia Foïs, tous les mardis dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, une nouvelle fois, Jean-Marc, l'administration Trump secoue le cocotier. Là, ça bouge pour le coup. John Bolton, le conseiller à la sécurité de Trump, s'est violemment attaqué la justice internationale. C'était la nuit dernière dans un discours. Les Européens, bien sûr, s'insurgent. Mais vous, vous dites, eh ben, peut-être que Washington est très logique dans ce dossier. C'est votre monde à l'envers du jour.
Alors, premier réflexe, on se dit, évidemment, l'équipe Trump, encore une fois, ne respecte rien. Les mots de John Bolton sont, c'est vrai, violents. La CPI, la Cour pénale internationale, est, je cite, inefficace, irresponsable, voire dangereuse. Et il en rajoute une couche, nous ne coopérerons pas avec elle. S'ils cherchent à nous poursuivre, nous empêcherons leurs juges de pénétrer sur le sol américain, nous les poursuivrons nous-mêmes en justice, etc. Nous poursuivrons aussi tous ceux qui leur prêteront assistance. Enfin, vous voyez le genre. Conclusion, comme un clou sur le cercueil, je cite toujours, nous allons laisser mourir la CPI. Pour être raide, c'est raide. Et là, notre première réaction, en bons Européens que nous sommes, c'est évidemment de dire comment l'équipe Trump ose-t-elle cracher à la figure de la seule institution de justice internationale susceptible de poursuivre des individus, notamment pour crimes de guerre. La CPI, rappelons-le, en exercice depuis 2002, ratifiée par 123 pays, elle compte 18 juges professionnels. Elle est financée en grande partie par les pays européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Et donc, vu d'Europe, il y a là une nouvelle attaque 100% Trump contre l'espoir d'une justice supérieure des hommes. Sauf que c'est un peu plus compliqué.
Enfin, c'est quand même aussi une attaque lancée par l'un des plus proches conseillers de Trump.
Hein. Ça fait pas de doute que le président américain est du même avis. C'est dans sa logique du America First, hors de question de reconnaître le moindre raisonnement supranational. Seul compte la puissance américaine. Mais en réalité, ce n'est pas nouveau. Si on fait abstraction de la forme, disons, trash, voire trash. Et si on regarde le fond, Trump est dans la continuité de ses prédécesseurs. Les États-Unis n'ont jamais ratifié la Cour pénale internationale. En 2002, ils ont même adopté un texte où ils s'autorisent potentiellement, tenez-vous bien, à intervenir militairement si l'un de leurs ressortissants est poursuivi par la justice internationale. Ça vous dit, ça vous donne une idée. Et même Obama, oui, Obama n'a rien fait. D'accord, il a tenu de beaux discours multilatéralistes. Il a envoyé des observateurs à la CPI, c'était une première pour les États-Unis. Mais a-t-il ratifié pour autant ? Zéro. Il y a donc une logique américaine qui préexiste à Trump, un sentiment de supériorité, ça se résume assez vite, la constitution américaine est supérieure aux textes internationaux. Et bien entendu, cette posture se durcit encore quand la Cour envisage, comme aujourd'hui, de poursuivre des soldats américains, en l'occurrence pour des soupçons de torture en Afghanistan. Il n'y a donc rien d'illogique, si vous voulez, dans la position de Bolton. Mais ça va encore plus loin, c'est que ces arguments sur la justice internationale ont une part de vrai.
Donc la CPI est inefficace, irresponsable, dangereuse, fermez les guillemets.
En tout cas, elle est inefficace. Les critiques sont nombreuses. D'abord, c'est une justice lente, les procédures sont interminables, les procès tout autant, les conditions de saisine sont compliquées. Après 16 années d'existence, les procédures réellement engagées ne concernent que 5 pays. En plus, tous ces actes, c'est la deuxième critique, ne visent que des dirigeants d'Afrique noire, congolais, ivoiriens, kényans, soudanais. Du coup, plusieurs pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Burundi, le Kenya, y voient une justice raciste. En fait, c'est une justice de vainqueurs. Elle s'attaque aux perdants, elle épargne les puissants. Du moins jusqu'à présent, parce que sous l'impulsion de sa nouvelle procureure, c'est en train de changer. Fatou Bensouda, c'est son nom, est gambienne. Elle a lancé des enquêtes préliminaires en Ukraine contre les exactions de Moscou, en mer de Chine contre les exactions de Pékin, en Irak contre l'armée britannique, dans les territoires palestiniens contre l'armée israélienne, en Afghanistan contre des soldats américains, on vient d'en parler. Autrement dit, la CPI se décide enfin à élargir son champ d'action. Le problème, c'est que, si j'ose dire, elle tombe au mauvais moment, à un moment de l'histoire où les replis nationaux l'emportent sur les logiques supranationales. Donc, elle a peu de chances de remporter son bras de fer contre Washington.
Le Monde à l'envers, de Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc, à demain, le 18-20 continue sur France Inter. N'allumez pas la télé, Sébastien Paour est là dans une minute. Et juste après, le téléphone sonne avec vous ce soir, Stéphane Leneuf, depuis le Parlement de Strasbourg. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Fabienne, oui, avec un invité, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques. Avec lui, nous évoquerons cette rentrée parlementaire très tendue, rentrée européenne très tendue, avec la montée des nationalismes, la crise migratoire, la guerre commerciale avec les États-Unis, puis cette année électorale européenne qui s'annonce vraiment très très dense. Nous allons évoquer tout cela avec lui jusqu'à 20h, un numéro, le 01 45 24 7000.
Voilà. Merci, Fabienne. Merci Stéphane, et à tout à l'heure.